La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Depuis la rentrée de septembre, La suite dans les idées propose de mettre systématiquement en dialogue des auteurs de sciences humaines et sociales et des artistes, des écrivains souvent, des journalistes parfois. Cette deuxième partie de l'émission tente ainsi chaque fois, à partir d'une question, d'un objet, d'une œuvre surtout, dont il a été question dans la première partie et qui relève des sciences humaines et sociales, de mettre en relation, en tension à l'occasion, deux modes de connaissance distincts. Aujourd'hui, le livre dont nous allons parler avec son auteur nous offre plus que jamais l'occasion d'interroger le dispositif lui-même. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir le philosophe Jacques Rancière à propos de son nouvel ouvrage « Les bords de la fiction », un livre dans lequel il interroge précisément les relations que ces deux modes de connaissance, la science sociale et la littérature, entretiennent à la fiction. C'est assez naturellement donc que m'est venue l'idée de demander à Régis Geoffrey de nous rejoindre pour le temps du dialogue en deuxième partie. Régis Geoffrey qui vient de publier Microfiction 2018, dont l'ambition est de saisir toutes les vies à la fois. Jacques Rancière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université Paris 8 et vous avez publié il y a quelques semaines dans la belle collection de Maurice Hollander, la librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil, Les bords de la fiction. Alors il s'agit d'un livre qui regroupe un certain nombre de textes que vous avez agencés en quatre temps et qui permet de mieux comprendre ce qui s'est joué au fond dans le rapport à la fiction, souvent inaperçu, aussi bien du côté de la science sociale que du côté de la littérature. Ce sont des objets littéraires que vous convoquez beaucoup, parfois aussi des livres de sciences sociales, je pense à Marx, mais beaucoup de littérature dont vous avez été un lecteur attentif, et vous nous proposez de réfléchir au fond de manière très précise à la façon dont se sont transformées ces relations à la fiction et finalement à l'omniprésence, je dirais, de la fiction, y compris dans des univers où ceux qui y évoluent n'ont pas toujours conscience et même parfois ne voudraient pas surtout avoir conscience de cette omniprésence de la fiction.
Oui, j'ai essayé de remettre en question la manière un peu trop simple de penser la fiction, toujours dans le rapport entre fiction et réalité. On a toujours l'idée que il y a d'un côté, bon, les réalités, ça c'est solide, on agit, on a affaire à des choses, et puis bon, bah la fiction, c'est le domaine de l'imagination. Alors, bon, ce que j'ai essayé de rappeler quand même, c'est que ben la fiction est partout. La fiction est partout, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de dire ben voilà exactement ce qui se passe, voilà comment on peut décrire une situation, dès qu'il s'agit de lier des événements entre eux, ben de dire voilà ça vient après ça, ça c'est la cause de ça, ça promet tel ou tel futur, ben on est déjà dans le domaine de la fiction. C'est-à-dire que qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, effectivement, les gens qui font de la science sociale, les politiciens, les journalistes, ils font tout le temps de la fiction. Ce qui ne veut pas dire qu'ils racontent des choses fausses. Ce qui veut dire qu'ils sont obligés de passer par une certaine forme de rationalisation. Et ce que j'ai essayé de rappeler, donc, c'est que oui, la fiction, c'est d'abord un mode de rationalité. Bon, c'est pour ça que j'ai renvoyé d'abord à Aristote. On peut dire bah, pourquoi remonter si loin ? Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue là. Parce que finalement, la poétique d'Aristote, c'est le premier mode d'explication rationnelle des actions humaines, qui ne renvoie pas les actions humaines à l'action, à l'intervention divine. Donc, bon, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que celui qui donne ses règles à la fiction est en même temps pratiquement le premier à déterminer un certain type de rationalité des actions humaines. Et donc, à partir de là, ce qui m'intéresse, c'est comment ce mode de rationalité se transforme et se trouve bon, subverti à l'époque moderne, mais aussi justement la manière dont, au fond, ce mode de fiction a deux destins. C'est-à-dire que, bon, Aristote définit un certain mode de rationalité causale. Bon, il dit, voilà, il y a fondamentalement, il y a deux sortes d'enchaînements temporels, quoi. Il y a la fiction qui établit un rapport causal causal entre les choses, qui dit comment les choses peuvent arriver, alors que la chronique dit simplement comment elles arrivent. Et bon, c'est une espèce de partage des formes, des modes d'expression, des modes de parole, qui est en même temps un partage des temps, et qui est en même temps, bien sûr, un partage, au fond, des conditions et des formes de vie. Parce que ça suppose que, y a des gens qui vivent dans le domaine de l'action, quoi, où il y a des causes, des effets qui s'enchaînent et qui produisent des résultats, et puis qu'il y a des gens qui vivent dans le monde ordinaire, où les choses simplement se succèdent. On se lève tous les matins, on fait les mêmes choses, on gagne sa vie, on fait des enfants, on s'occupe des enfants, et puis voilà, quoi. Donc, au fond, ce qui m'intéressait, c'est le devenir de ce mode de rationalité globale à l'époque moderne, et en particulier la manière dont s'y opposent la littérature et la science sociale.
Alors, Aristote, comme point de départ, très lointain, mais après un grand saut dans le temps qui nous amène principalement au 19e siècle où se jouent beaucoup de choses. Évidemment, le 20e aussi continuera, poursuivra, mais c'est au 19e siècle que dans la littérature au moins, mais aussi dans la science sociale naissante, oui, se joue ce rapport différencié à la fiction qui va aboutir à une drôle d'histoire, Jacques Rancière, à un renversement total des perspectives.
Oui, c'est-à-dire que je crois que ce qui se passe au 19e siècle, très grossièrement, c'est que d'un côté, ce que fait la science sociale, c'est d'étendre à l'ensemble des rapports humains un mode de rationalité qui, dans la tradition poétique héritée d'Aristote, était justement réservé à la fiction, et réservé à la fiction pour autant que la fiction s'occupait de gens qui avaient une certaine dignité, qui étaient dans la sphère de l'action, dans la sphère des fins qu'on poursuit, et pas dans le monde ordinaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe au 19e siècle? C'est que d'un côté, ce mode d'explication des événements va être en un sens adopté par la science sociale, quoi. Car en un sens, on peut dire, c'est la grande révolution avec Marx. Marx dit, mais c'est dans le monde de la production, c'est dans le monde de la vie matérielle que se trouve la causalité qui détermine la vie des sociétés. Mais en même temps, je dirais qu'il poursuit la tradition qui dit que, il y a des gens qui savent et puis il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui vivent dans le temps du processus global, qui comprennent le processus global, et puis il y a des gens qui le comprennent pas, quoi. Et ce qui fait que, la temporalité de la science sociale est quelque chose comme, en le disant un peu de manière provocatrice, la temporalité de la tragédie, mais étendue à l'ensemble de l'humanité, quoi. Dans la tragédie, le héros est victime d'une erreur, il s'est trompé, il a agencé son affaire, et puis ça s'est retourné contre lui. Et d'une certaine façon, c'est ça que Marx étend un petit peu à toute l'humanité, quoi. Il y a un processus que les gens vivent, et puis ils ne s'en rendent pas compte, et puis ils sont dans la caverne de l'idéologie, ils voient les choses à l'envers, et puis ça leur retombe dessus. Donc tout se passe comme si, au fond, cette espèce de figure tragique de l'erreur devenait la condition humaine normale. Et par rapport à ça, ce que fait la fiction est complètement l'inverse.
C'est l'inverse, oui. C'est l'inverse total. C'est-à-dire que la fiction, alors par exemple, vous vous appuyez sur Flaubert, sur Balzac, enfin sur tous ces grands auteurs du 19e siècle qui vont inventer en partie le roman par finalement un regard porté, là encore, à ces gens qui jusque-là échappaient à la causalité, qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de commettre ces erreurs dont vous parlez, Jacques Rancière, et qu'il va désormais être possible, avec un regard littéraire, de considérer.
Oui, je crois que ce qui est fondamentalement important, c'est cette révolution concernant le rapport au temps. C'est-à-dire que, d'abord, on est à ce moment, aussi au 19e siècle, où il y a un certain nombre de gens qui, justement, sont confinés dans l'univers de la journée de travail, dans l'univers de la reproduction. Et puis, qui ont envie un peu de passer la tête par la fenêtre, quoi, et de vivre une autre vie que, justement, la vie des gens qui recommencent chaque jour ce qu'ils ont fait la veille. Et puis, c'est aussi à ce moment-là, je pense que, justement, le roman va en quelque sorte comme épouser le temps de ces gens-là, effectivement, ce que j'essayais de montrer à travers le fameux chapitre de Madame Bovary, ou ce chapitre de l'ennui, quoi, la journée à tôt, comme ça. Et tout d'un coup, le roman va se peupler d'une multiplicité de petits événements sensibles. C'est-à-dire que on sort du domaine des grandes actions, des grandes causalités, des grands personnages. Et tout d'un coup, les petits gens entrent dans la fiction. En un sens, ils y étaient toujours déjà, mais ils y étaient déjà justement pour les seconds rôles, pour les valets de comédie, un petit peu. Ils parlaient dans leur langage, ils faisaient leur bourde. Ils étaient vraiment grossiers, et puis on s'amusait d'eux, quoi. Au temps de Julien Sorel, au temps de Madame Bovary, justement, le problème, c'est qu'ils sont plus grossiers, quoi, ces gens du peuple. Ils sont plus dans le rôle des valets. Ils veulent vivre une vie pleine, d'êtres humains, quoi. Et c'est là, effectivement, quelque chose qui, je pense, donne véritablement comme son soubassement, à la forme romanesque moderne. C'est-à-dire que, il va s'agir pour le roman, comme, justement, d'épouser un petit peu le temps de ces gens-là. Alors, à la fois, si on prend Balzac, si si on prend Flaubert, on peut dire que on a toujours une espèce d'architecture classique, finalement, de la fiction, avec son commencement et sa fin, et puis quelques renversements entre le commencement et la fin. Mais fondamentalement, cette espèce de temps traditionnel est doublé et de plus en plus se font manger par un autre temps, qui est un temps, finalement, d'événements qui se succèdent, d'événements qui s'intègrent, pénètre et qui sont finalement ça qui est important.
Alors c'est ce premier temps de changement littéraire, c'est ce temps où on ouvre en grand les portes et les fenêtres. Et d'ailleurs ce dispositif de la fenêtre, un de vos chapitres s'appelle Derrière les vitres, est très important. Il va jusque finalement à la fréquence des scènes de voyeurisme que vous notez dans l'œuvre d'un Marcel Proust par exemple, Jacques Rancière.
Oui, il y a, disons, plusieurs choses dans les fenêtres. Bon, il y a la question du voyeurisme. Bon, ça, c'est un cas particulier. Et puis, il y a, disons, le fait que tout d'un coup, bon, le regard s'ouvre vers un monde qui, jusque-là, était un monde qu'on voyait pas, qu'on n'avait pas à voir. Bon, je pense que tout à fait au début de cette première partie, des portes des fenêtres, je rappelle cette extraordinaire critique de Madame Bovary faite par un critique,
aristocrate.
Voilà, qui dit dans le temps, c'était bien le roman, La Princesse de Clèves, parce que, justement, on voyait la campagne que par les fenêtres des palais, on voyait les petites gens que par la portière des carrosses, ils étaient à distance. Donc, il y avait un espace pour les nobles sentiments, les nobles actions des gens nobles. Et puis, tout d'un coup, voilà que tout ça s'ouvre et ça devient un peu répugnant. Et en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça devient répugnant, mais on voit bien que c'est autre chose qui se passe. Bon, si on prend la question des fenêtres, comme ça, chez Balzac, il y a plusieurs moments en quelque sorte, où l'histoire va se dérouler à partir d'une vue derrière une fenêtre. Il y a le substitut honorable, comme ça, monsieur de Granville, qui traverse les quartiers populaires pour aller au palais de justice, qui fait son métier. Et puis tout d'un coup, il est attiré par une fenêtre. Il y a une espèce comme de tableau derrière la fenêtre, avec, la sage ouvrière qui brode avec sa mère, avec le balcon, la fenêtre entourée de capucines, un peu selon la mythologie de l'époque. Et puis voilà, ça va être le début, évidemment, d'une affaire d'adultère, comme ça. C'est un peintre, tout d'un coup, qui est comme attiré aussi par ce qu'on voit à l'arrière-boutique, comme ça. Et au fond, c'est comme un tableau, d'une certaine façon, c'est pas le peuple qui entre avec ses gros sabots, c'est véritablement tout d'un coup une espèce de regard qui s'ouvre sur l'autre côté de la société.
Alors, le temps d'après, mais toujours sur la même trajectoire, en quelque sorte, ça va être le moment réaliste et même naturaliste, où là, ce peuple-là est toujours là et la littérature poursuit cette métamorphose, au fond, c'est ce changement épistémologique, on pourrait dire.
Oui, je crois que le changement fondamental, effectivement, tient à la manière de penser véritablement la manière dont des événements, se lient les uns aux autres. C'est-à-dire que on n'est pas simplement dans une espèce de renversement où on dirait dans la tradition il y avait on valorisait le temps de l'enchaînement des causes et des effets des grandes actions et maintenant c'est les petites choses. Non, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas simplement que les événements maintenant simplement se succèdent. C'est qu'ils s'interpénètrent, qu'ils créent quelque chose comme une sorte de milieu de vie. Normalement, une fiction ça a un début, un milieu et une fin. Et puis, il y a un moment où c'est le milieu, d'une certaine façon, qui devient comme le tout de la fiction. C'est-à-dire que la fiction, au fond, s'organise autour de moments. Il y a comme une espèce de radiation, en quelque sorte, de rayonnement de ces moments qui s'en vont un petit peu à l'infini. Et c'est ce qui fait le lien, effectivement, entre des choses qui ont l'air complètement opposées. C'est-à-dire entre, le côté un peu réaliste, sordide de la vie paysanne ou ouvrière au 19e siècle. Et puis, ces choses supposées distinguées, du genre, la promenade de Mrs. Dalloway chez Virginia Woolf. Et d'une certaine façon, c'est pourtant la même ligne qui se poursuit, Bien que, justement, y a certains qui veulent opposer l'un à l'autre, comme Lukács, par exemple, qui dit, il y a le grand temps du roman réaliste, et puis il y a cette espèce de perte, de dissolution de l'expérience, dans la fragmentation, le subjectivisme, et c'est le moment moderniste, comme ça on oppose réalisme et modernisme. Mais pour moi, le réalisme, d'une certaine façon, c'est le modernisme en son essence,
Mais alors, Jacques Rancière, comment comprendre une concomitance qui a souvent été relevée, je pense au travail d'Uri Eisenzweig ou au travail de Luc Boltanski sur Énigmes et complots, qui est au fond l'invention simultanée de l'enquête en sciences sociales, de l'enquête de police et du roman policier. Vous y revenez, vous parlez d'Edgar Poe, et vous allez jusqu'au très grand Dashiell Hammett pour parler de ces questions de causalité et d'enquête et de finalement l'irruption du rouletabille dans la littérature, Jacques Rancière.
Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, le roman policier naît non pas du tout d'une espèce, je dirais, de contrainte sociologique, c'est-à-dire que le roman policier ne naît pas de la nécessité d'expliquer le crime, les raisons du crime, le milieu du crime. Le roman policier naît d'une certaine façon comme une sorte de réaction. Si on pense à ce que fait Edgar Poe, on peut dire, c'est le moment où, par ailleurs, le réalisme triomphe, c'est-à-dire que justement, la grande action, bien ordonnée, bien cousue, se perd dans une succession un petit peu de moments. Et puis, un amour, par exemple, chez Flaubert, ça va naître d'un peu de poussière qui passe sous une porte, ou de choses comme ça. Donc, au fond, gens comme Edgar Poe, pour eux, c'est l'horreur, ça. Bon, ils veulent rétablir une espèce de causalité sérieuse. Et la causalité sérieuse, d'une certaine façon, c'est le crime, c'est l'enquête sur le crime qui va en fournir la matière, quoi. Ce qui fait que, il y a comme une espèce de platonisme du roman policier, qu'on voit chez Edgar Poe, qu'on voit bien sûr dans le personnage de Rouletabille, qui est justement l'homme qui dit, il faut fermer les yeux, surtout ne rien voir, ne rien regarder pour avoir la chose qui se passe dans votre tête. Et c'est déjà chez Edgar Poe, quoi. Il y a ce moment où le roman policier figure pas du tout l'enfoncement dans la crapulerie, mais au contraire, une espèce de forme de rationalité retrouvée, éventuellement même de spiritualité retrouvée, si on pense à Edgar Poe. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, cette rationalité exemplaire que des gens comme Borges, par exemple, essayent encore de suivre pour s'opposer justement à cette espèce un peu de déliquescence réaliste du roman à la française, quoi. Bon, à un moment donné, malgré tout, cette rationalité exemplaire se trouve comme rattrapée en réalité, pourrait-on dire, par justement le temps fragmenté, l'expérience dispersée. Effectivement, si on pense à ce qui se passe entre Edgar Poe et Dashiell Hammett, effectivement, avec Dashiell Hammett, il ne s'agit plus de trouver les raisons du crime, il ne s'agit plus d'enquête, il ne s'agit plus de cette espèce de travail sur les traces, il ne s'agit plus de fermer les yeux en se disant cherchons la cause, parce que la cause n'est jamais, disons, sur le terrain. Bon, d'une certaine façon, le crime devient l'expression d'un milieu. On peut dire qu'il y a un devenir naturaliste tardif du roman policier, dans lequel, je pense, on vit encore pour l'essentiel, même s'il y a des gens qui essayent, si on peut penser bien sûr au modèle du style Agatha Christie, il s'agit quand même de faire une bonne causalité. Mais en revanche, de Dashiell Hammett jusqu'à James Ellroy, on voit bien que c'est autre chose, où le crime a besoin d'être expliqué, le crime est un monde par lui-même.
On passe du roman policier au roman noir, en fait, repose sur d'autres logiques. Mais ce rapport à la fiction que la littérature se met à entretenir, qui est de plus en plus différent de la tradition littéraire, va jusqu'à l'interrogation de l'auteur par rapport au dispositif qu'il propose. Pour comprendre cette gêne à l'égard du dispositif imaginaire, au fond, vous vous appuyez sur notamment Conrad, qui vous permet à travers un roman de poser cette question de la manière dont finalement le romancier expose son dispositif d'imagination.
Oui, ce qui est toujours très frappant chez Conrad, c'est cette espèce de difficulté à créer des personnages de fiction. Et ça aboutit quelquefois à des espèces de paradoxes invraisemblables, comme dans ce début de L'Agent secret que je commente, où, on donne la parole à un professeur d'anglais qui a rencontré le héros ou anti-héros du roman, à savoir Razumov, et qui est censé donc nous raconter la vie de cet agent double qui servait la police tsariste en se faisant passer pour un révolutionnaire, sauf qu'on ne sait jamais comment ce professeur honorable de langue anglaise vivant en Suisse a pu être au courant de ses actions. Puis après ça, on découvre que c'est parce que Razumov tenait un carnet secret, quoi. Bon, alors un agent double qui tient un carnet secret où il note soigneusement toutes ses trahisons, c'est un peu bizarre, quoi. Mais justement, ça renvoie à cette espèce d'impossibilité en quelque sorte pour Conrad de prendre sur lui l'invention de ce genre de personnage. Au fond, ce qui l'intéresse lui, c'est les personnages dont il peut dire, je les ai rencontrés. Il dit souvent, Lord Jim, le coup de personnage, je les ai vus passer un jour, comme ça, ils passaient sur le quai dans une ville d'Orient ou tel autre dans les rues de Londres. Avec l'idée, finalement, justement, que dans inventer, il y a toujours de la manipulation, quoi. Et d'ailleurs, les romans, on peut dire, où il invente véritablement l'intrigue, où il invente les personnages, sont des romans toujours de manipulation. Alors que la véritable imagination, dit-il, en se référant à Maupassant au passage, n'invente jamais. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il s'agit de développer développé comme la virtualité d'histoire qu'il y a dans comme ça, un visage qu'on rencontre, une silhouette, bah, éventuellement un fait divers, comme ça, une image. Et c'est à partir de là, véritablement, qu'on peut déployer un monde fictionnel, qu'on peut le déployer bon, essentiellement comme des espèces de tissus de phrases qui sont comme motivés, engendrés par cette petite chose, cette chose entrevue au passage. Donc, ça veut dire comme une espèce de rejet, en quelque sorte, de ce qui semble être la tâche normale du roman, à savoir, bah, on faut quand même inventer les personnages, inventer les situations. Et puis, il y a ce moment où le romancier, qui en plus a cette espèce de casquette qui, évidemment, qui lui déplaît de romancier d'aventure ou de romancier maritime, doit effectivement être obligé comme de se battre avec cette obligation et de dire fondamentalement, bon, bah, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de suivre des personnages qui suivent un peu leur chimère, leur folie tout autour du monde. Et alors que, bon, inventer, c'est la tâche des manipulateurs, c'est la tâche des agents russes, pour le dire vite.
Alors, on a arpenté ces bords de la fiction du côté de la littérature. Que se passe-t-il dans le même temps avec les sciences sociales après Marx? C'est-à-dire que on peut, avec votre réflexion, comprendre autrement peut-être ce qu'est la révolution de l'école des annales en histoire ou l'attention portée donc aux acteurs ordinaires. Et du coup, comment vous observez aujourd'hui la relation que cette science sociale entretient à la fiction, Jacques Rancière?
Bon, je crois qu'il y a, plusieurs temps. Bon, il y a fondamentalement le fait que, bon, à un moment donné, la science sociale, on pense particulièrement à l'histoire, on peut dire qu'elle s'est vraiment nourrie de la révolution littéraire. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a Hugo, c'est parce qu'il y a Michelet, que des gens comme Lucien Febvre, des gens comme Braudel, même encore, peuvent constituer comme ça cette espèce d'histoire où, au fond, comme une totalité historique peut se donner éventuellement dans un tout petit événement, sur un tout petit territoire. Ça se poursuit encore, bien sûr, avec, par exemple, le Montaillou, le Roi la Durie, des choses comme ça. Je veux dire, bon, puis la littérature invente quelque chose qui est une parole du muet, une parole des choses, une parole des murs, une parole du territoire. Et bien sûr, ça, on peut dire que la science sociale en fait effectivement sa nourriture, mais évidemment, bah, en le niant, en disant qu'eux, ils sont du côté du sérieux. Bon, ce qui veut dire, en gros, malgré tout, que très souvent, la science sociale va reproduire quelque chose comme une espèce de psychologie romanesque dont elle se dispense d'interroger un petit peu les soubassements. Et évidemment, le meilleur moyen pour ça, c'est toujours de dire, mais ah ben, on va analyser la fiction va montrer comment la fiction déforme la réalité. Donc voilà, il y a cette espèce de tradition positiviste paradoxale, parce que effectivement, c'est comme une espèce de scientisme anti-littéraire qui en même temps trouve dans la littérature essentiellement ses procédures. Alors bon, ça a duré jusqu'à assez peu de temps finalement. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de mouvement dans les sciences sociales qui est parti plus de l'ethnologie, plus de l'anthropologie, parce que là, évidemment, il y a des enjeux de rapport aux populations dominées qui sont très très forts, qui ont commencé un petit peu à mettre en question, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on donne la parole à un sauvage entre guillemets. Et d'une certaine façon, c'est d'abord les ethnologues qui ont interrogé la position de celui qui vient interroger, de celui qui raconte, de celui qui observe. À partir de là, bon, maintenant, c'est vrai que bon, ça s'est quand même pas mal répandu dans le champ des sciences sociales, enfin au moins dans le champ de effectivement ethnologie, anthropologie, mais les historiens aussi commencent un petit peu à s'en occuper. Donc avec du même coup, le problème de savoir comment on peut raconter, quoi. Et effectivement, ça veut dire que souvent l'histoire va se pencher vers l'historiographie, vers l'interrogation sur ses propres procédures.
Comment on peut raconter? Alors, on s'est posé la question pour les romanciers, on vient de se poser la question pour les sciences sociales, mais il est une autre profession qui aussi entend raconter, c'est le journalisme. Vous en parlez peu dans le livre, mais il y a quand même cette phrase que je voulais citer dans votre introduction, Jacques Rancière, parce que elle me préoccupe, c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps. Vous écrivez « En un temps où la médiocre fiction nommée « information », entre guillemets, prétend saturer le champ de l'actuel avec ses feuilletons éculés de petits arrivistes à l'assaut du pouvoir sur fond de grands récits d'atrocités lointaines », une telle recherche, la vôtre, peut contribuer à élargir l'horizon des regards et des pensées sur ce qu'on appelle un monde et sur les manières de l'habiter. Là encore, alors peut-être encore plus que pour la littérature et les sciences sociales, il me semble que la place omniprésente de la fiction dans le journalisme reste quelque chose de tabou.
Oui, je pense que bon, il y a des modes d'explication, moi, qui sont absolument bon admis, c'est-à-dire le moindre événement social, ça peut être une grève, ça peut être un assassinat, ça peut être un crime, ça peut être tout ce qu'on veut, disons la moindre chose est d'avance interprétée, c'est-à-dire qu'il y a une grille d'interprétation qui est toute prête et qu'on va à chaque fois un petit peu plaquer sur les événements. Enfin, on n'est pas obligé de le faire, mais je veux dire, il faut que ça marche comme ça parce que il faut quand même que les choses qui arrivent jour après jour, elles aient un sens. On n'a pas le temps de passer des mois, de passer des années à essayer d'organiser ça, de lui donner une structure narrative spécifique. Donc les structures narratives existent. En fait, on peut dire que dès le départ, les structures narratives sont comme en fait saturées d'interprétations, d'explications
qui
sont déjà là. Et bon, alors effectivement, le problème, c'est dans quelle mesure une profession peut-elle elle-même s'obliger en quelque sorte à mettre en rapport ce qu'elle fait avec d'autres manières d'expliquer les choses, d'autres manières de les raconter. Bon, c'est extrêmement difficile. Moi, je pense qu'effectivement, bien sûr, la phrase que vous citez faisait allusion à toute l'excitation médiatique autour de la montée de Macron, bien sûr. Et effectivement, il y a un côté un peu tellement rastignac, tellement 19e siècle, si vous voulez, dans la manière dont a été construite un petit peu la légende Macron, que ça en a quelque chose d'un peu effrayant.
Vous voulez dire que c'est parce que tout le monde, au fond, connaît par cœur cette histoire qu'elle a pu s'écrire aussi facilement à longueur de colonnes de journaux?
On la connaît ou on la connaît pas, mais finalement, on ne sait plus d'où elle vient, mais c'est devenu effectivement un standard de narration et un standard d'explication.
Alors, on va continuer à parler de relations entre littérature, sciences sociales, fiction, journalisme, dans la deuxième partie de l'émission avec Régis Geoffrey. Et après avoir entendu, c'est une manière de rendre hommage à son leader, Marky Smith, qui vient de disparaître, un morceau du groupe britannique The Fall, Kickers Conspiracy, qui est probablement l'une des plus belles chansons jamais écrites sur le monde du football.
The FA broods on how Flair can be punished, and their guest is a Euro state magnate. Comrades, you elect kick off conspiracy, and the first club, George Best's rule. His downfall was a long goal, but that's money or business. Kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy. Former fan at the bus stop, stretch on the balls of his feet at the Christmas rush. Club units, plastic, slime, partitions, cocktail, zigzag, Tudor bar, Pat McCat, the very famous sports reporter, is talking there.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Les bords de la fiction, c'est le livre de Jacques Rancière dont nous parlons depuis le début de la suite dans les idées. Et dans cette deuxième partie, j'accueille l'auteur d'un livre qui s'appelle Microfiction 2018. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Précision 2018 parce que Microfiction était déjà le titre de l'un de vos livres paru, si ma mémoire est bonne, en 2007. Il n'y a pas si longtemps. Entre ces deux livres, vous en avez publié un certain nombre d'autres qui, pour beaucoup d'entre eux, s'appuyer sur des histoires vraies, des histoires réelles, telles qu'elles avaient été chroniquées dans la presse, par exemple, ce qu'on appelle des faits divers. Vous en aviez fait de la littérature, vous en aviez fait de la fiction, d'une certaine façon. Mais là, est-ce qu'on peut considérer que Microfiction 2018 marque un retour à la fiction ?
Là, si vous voulez, c'est de la fiction un peu à l'état pur, c'est-à-dire dans la mesure où je ne reproduis pas, où je n'ai pas étudié de faits réels ou de personnages réels. Tout à fait, oui. Mais simplement, ce qui est intéressant dans ces livres qu'on appelle sur des faits divers, et moi je trouve que c'est pas le mot, parce que des fois, on est aux extrêmes même de l'humanité. Par exemple, dans l'affaire Fritzl, cet homme qui a enfermé sa fille pendant 24 ans dans une cave et lui a fait 7 enfants... non seulement on est dans la caverne de Platon, puisqu'il voyait tout à la télévision et il ne connaissait pas le réel, mais en même temps, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est choquant dans cette affaire-là, c'est pas que j'ai fait un livre là-dessus, c'est que je sois allé sur place. Et qu'alors que tous les journalistes du monde entier étaient là, moi, comme je n'avais pas à rapporter d'informations justement à une direction, j'ai découvert des choses que personne n'avait découvert, et j'ai découvert une chose qui a bouleversé l'affaire, qui bouleverse toute la perception qu'on a de l'affaire, parce que je suis le seul au monde à avoir rencontré les experts acousticiens, et donc on entendait tout ce qui se disait dans la maison. Mais on se rend compte que quand on est un romancier et qu'on se penche sur le réel, on n'a pas du tout la même façon de le faire, parce qu'on n'est pas dirigé de la même façon. C'est-à-dire qu'on est dans la liberté absolue, à la fois dans la narration, à la fois dans la façon d'aborder les choses. Et ça, je pense que ça, c'est scandaleux. C'est-à-dire que ce qui n'est pas admis, c'est finalement de partir du réel, de partir de ce qu'on a découvert soi-même et d'en faire une fiction. Ça, c'est que je me suis aperçu que c'était un scandale. C'est quelque chose qui n'est pas admis par notre société. On peut à la limite admettre une fiction pure sur une chose qui a eu lieu, ou alors un livre d'investigation. Mais quand c'est un romancier qui écrit, et qui, moi je peux guère faire autre chose que de la fiction, c'est un peu une maladie, et bien là ça devient très scandaleux. Je sais pas pourquoi.
Ce dont parle Régis Geoffrey, Jacques Rancière, oui. On peut dire que ça dépasse ce livre de Régis Geoffrey, ou d'autres livres de Régis Geoffrey. Il y a quelque chose de l'ordre d'un phénomène qui voit des romanciers s'emparer d'histoires vraies pour en faire de la fiction. Comment vous le regardez avec à la suite de cette réflexion dont nous venons de parler?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on sait déjà que, bon, Stendhal part de deux faits divers de la Gazette des Tribunaux, quoi. Je dirais, d'une certaine façon, la Gazette des Tribunaux, ça a été très important aussi dans la naissance du roman moderne. Et après, bien sûr, en même temps, après, bon, il construit une fiction, on peut dire, en un sens, à l'ancienne, quoi. Mais, bon, ce qui est effectivement est différent, peut-être, dans des démarches plus contemporaines, oui, c'est de construire quelque chose qui, en même temps, on peut dire, oui, est au plus près, disons, de cette expérience réelle. C'est-à-dire, si on prend bien sûr ce qui effectivement était déjà le cas pour Truman Capote, bon, bah, effectivement, on peut dire que il re-raconte des événements réels, et c'est quasiment réel, c'est quasiment la même chose, et en même temps, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, effectivement, ça devient un problème, c'est plus du journalisme, c'est plus du biopic, c'est plus de la fiction pure, mais en même temps, je dirais que c'est un petit peu, je dirais, aussi la fiction de notre temps. Bon, on peut penser aussi au rôle que joue au cinéma, toutes sortes, justement, de films qui sont entre le documentaire et la fiction. On croit que c'est du documentaire et puis on s'en compte, mais pas du tout. Tout ça c'est construit, tout ça en fait c'est retravaillé, et ces gens qu'on a l'impression qu'ils sont devant la caméra et qui racontent leur petite histoire, ben non, il récite un texte qui a été construit avec ce cinéaste. Et bon, je crois qu'il y a quelque chose comme ça effectivement qui crée le malaise, parce qu'on a envie de savoir quand même, bon, est-ce que c'est inventé, est-ce que ça raconte des faits vrais, éventuellement les romançant un peu, mais disons effectivement les formes mixtes sont des formes difficiles à avaler, et en même temps, effectivement, c'est peut-être les formes qui aujourd'hui remettent en cause précisément les partages admis comme les partages entre fiction et réalité.
Et créer le scandale, comme disait Régis Geoffrey. Mais alors, justement, Régis Geoffrey, quelle différence vous percevez dans la pratique littéraire, dans l'écriture, entre ces romans pour lesquels vous avez pu aller jusqu'à enquêter, vous rendre sur place, et puis Microfiction 2018, où là, vous êtes dans ce que vous appeliez tout à l'heure la pure fiction, c'est-à-dire la création de personnages imaginaires et de faits imaginaires.
C'est-à-dire que moi, dans Microfiction, c'est la liberté, quoi. C'est le bonheur, c'est mon état naturel. C'est-à-dire qu'aller vers le réel, c'est pour moi une humilité, et puis c'est surtout pour moi pour dire je vais sortir de chez moi, je vais voir ce qui se passe en réalité. Moi, mon état absolument naturel, le bonheur absolu, c'est la fiction. fiction absolue, c'est la fiction totale. Et donc la microfiction, c'est l'essence même de la fiction totale, parce que justement, c'est des formes courtes qui sont bourrées jusqu'à la gueule d'événements.
C'est la densité que vous recherchez.
Oui, parce que là, c'est quand j'ai mis à la fin tout est visé à la fois, c'est l'impression que j'ai eue en tenant le livre dans ma main. Mais en réalité, oui, c'est si vous voulez, la fiction pour moi, à un moment, c'est vraiment l'imaginaire et c'est la création d'existence. Et là, c'est un livre qui est où il y a une foule de personnes, voilà. Et ça, je pense que c'est la fiction absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, c'est l'action elle-même qui réfléchit. Et ça, c'est le, pour moi, ça a été le bonheur absolu, c'est le bonheur absolu d'écrire ce livre.
Et de créer des personnages aussi.
Tout à fait. Et puis moi, c'est un, vous savez, il y a des gens, on m'a cité quelqu'un qui, par exemple, il suffisait qu'il lise une fois quelque chose et puis qu'il le savait par cœur. Ben, moi, j'ai cette espèce d'étrange faculté, c'est que je me mets à écrire, il y a des personnages qui surgissent et c'est pas du tout un effort de l'imagination. L'effort, c'est plutôt de retenir pour que d'autres personnages n'arrivent pas et que je sois dans l'impossibilité de raconter, si vous voulez. Pour moi, là, c'est le, je pense que c'est la lit, quelque part, c'est la, peut-être la fiction à l'état pur, si c'est, une des façons de la concevoir, la fiction à l'état pur. Voilà, c'est il y a peu de gens en fait qui ont ce désir de raconter. Vous savez, juste de raconter, pas de donner son avis sur la vie, parce que tout le monde a un avis sur la vie, mais de raconter des histoires. Voilà, moi je suis d'une certaine façon, je suis un conteur.
Jacques Rancière.
Oui, enfin, je serais pas absolument d'accord dans la mesure où j'ai l'impression quand même que bah, Régis Geoffrey donne un avis sur la vie quand même dans toutes ces microfictions. Donc, effectivement, quand on entend parler de ce bonheur,
heureusement pour le lecteur,
oui,
je dirais.
Oui, quand on entend parler de son bonheur, en même temps, bon, c'est vrai que ce bonheur, c'est quand même en l'occurrence de raconter des fictions qui sont toujours des fictions un petit peu horribles, quoi, finalement, d'existences gâchées, de couples qui se détestent, d'enfants qui meurent. Voilà, il y a quelque chose comme ça, bon, qui est tout à fait quand même surprenant, en tout cas auquel on n'associe pas d'emblée le mot bonheur, quoi. On a plutôt effectivement l'impression comme d'une espèce de rejet d'un certain monde qui s'exprime à travers tous ces récits.
Alors on parlait des personnages, je voulais qu'on revienne là-dessus d'ailleurs, oui. Jacques Rancière, parce que l'un des phénomènes de la littérature contemporaine, c'est l'intérêt pour ces entre guillemets faits divers, mais un autre trait qu'on peut relever, c'est finalement des romans en forme de biographie. Vous disiez tout à l'heure biopic, alors on connaît au cinéma, oui. Mais on l'a vu beaucoup dans la littérature contemporaine aussi, des romanciers se saisir de la vie, alors parfois de manière très radicale au plan littéraire. Je pense à quelques livres de Jean Echenoz en particulier. Mais comment interpréter ce phénomène? Est-ce que là, ça témoigne de cette gêne à l'endroit de la création de personnages de pure fiction?
Oui, je crois qu'il y a cette difficulté, bon, qui effectivement existe un peu, oui, depuis le temps de Conrad, quoi, pour le dire vite, et qu'on retrouve, bon, chez certains auteurs que j'étudie là, comme chez Zébald, par exemple, quoi. Bon, il y a effectivement comme une espèce de tentative de créer des personnages qui sont à la fois entièrement inventés et en même temps qui sont comme des espèces de condensés en quelque sorte, où il y a toute une société qui en quelque sorte se met à exister à travers une toute petite biographie. Bon, effectivement, c'est quand même frappant dans ces microfictions, c'est la manière dont très souvent c'est des biographies, et des biographies qui sont presque comme des espèces de notices nécrologiques un peu anticipées, quoi. Finalement, le type explique comment sa vie a été déterminée par un certain mode d'existence de la société globale. D'une certaine façon, c'est entièrement inventé. Régis Geoffrey nous dit c'est le bonheur de l'invention, et en même temps on se dit mais c'est un peu atroce parce que ça correspond effectivement exactement à tel fait divers dont on entend parler dans les journaux en ce moment, même s'il les a pas du tout. Il ne les a pas du tout repris, etc. Et d'une certaine façon, on se dit, mais bon, c'est complètement inventé, et ça ressemble tellement à ce que finalement... j'exagère un petit peu, mais on a tellement l'impression, en tout cas, de voir de ces personnages comme ça un peu misérables qu'on va tout d'un coup entrer à travers des affaires judiciaires, même si la forme est complètement différente, quoi. Il y a quelque chose de un peu de troublant parce que justement c'est entièrement un univers entièrement inventé qui a l'air comme d'une espèce de radiographie de notre monde.
Régis Geoffrey.
Oui, non, je pense.
C'est juste parce que vous lisez les journaux.
Non, mais je pense que de toute façon on est imbibé de la réalité, c'est ça qui donne l'imaginaire. Hein, ça, c'est il y a aucun problème. Non, là c'est juste une chose sur le le fait qu'il y a des personnages qui assassinent, etc. Je pense que, vous savez, il y a un problème quand on est journaliste ou quand on est invité à un débat, c'est qu'on est obligé de lire très vite un livre. Et je pense que il y a des choses qui vous frappent et on pense qu'à ça. C'est pas du tout la
foule, tonalité générale.
Non, la tonalité générale n'est pas là. Mais ça, vous avez raison, parce que on ne peut pas, dans l'imaginaire, sortir du réel. C'est-à-dire que c'est impossible. On peut pas inventer autre chose que de la réalité. Ça, c'est sûr. Parce que on n'a pas le pouvoir divin d'inventer quelque chose qui ne peut pas arriver. Puisque tout peut arriver. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et simplement, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que mes histoires, peut-être, se terminent comme dans la vie et pas comme dans la littérature. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Artaud et qui disait les trois quarts de la littérature est de la cochonnerie. Et ce qu'il voulait dire, c'est que c'était, si vous voulez, de la prostitution. C'est-à-dire, c'est un peu pour flatter le lecteur. Et on a beaucoup de cette littérature somnifère. D'ailleurs, on nous dit maintenant que la littérature doit soigner les gens, où on raconte n'importe quoi aux gens. Strictement n'importe quoi. Et finalement, les histoires sont faites pour avoir une fin qui n'est pas comme dans l'existence, pour présenter des personnages qui ne sont pas comme dans l'existence et pas comme le lecteur. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose d'assez sirupeux. Et moi, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que j'en suis incapable parce que c'est pas ma culture. Moi, ma culture, c'est Dostoïevski, c'est Kafka, c'est Marcel Proust, c'est un certain nombre de gens qui étaient des auteurs scandaleux. Parce que, par exemple, Proust était un auteur scandaleux. Je veux dire, il était enfermé. Parce que quand même, tous ces personnages sont homosexuels à part le narrateur et le duc de Guermantes, en gros. Ça se termine dans un bordel pour hommes où ils se font fouetter par des soldats. L'homosexualité est un délit à l'époque. C'est des gens scandaleux. Kafka, c'est du sadisme, si on va par là, la colonie pénitentiaire, la métamorphose, etc. Et avec le temps, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus policé, mais la littérature ne l'a jamais été. Et Balzac, on vous dit, Balzac, c'était sa société, mais non, c'était pas la société de l'époque, c'est sa société vue par lui. La société de l'ambitieux, c'est-à-dire une société qui change tout le temps, parce que l'ambitieux pense toujours qu'il va pouvoir monter. C'est jamais et Flaubert, regardez la correspondance de Flaubert. Flaubert ne comprend rien au peuple, il ne sait même pas ce que c'est. Même quand la correspondance à Louise Collet, par exemple, quand sa fille est malade, il comprend rien. Il lui dit, mais va voir tel professeur qui aujourd'hui, la consultation coûterait 1000 euros alors qu'elle est dans la plus grande pauvreté. Non, on a toujours été dans cet imaginaire, on a toujours été dans le scandale. Madame Bovary est un scandale, etc. On ne va pas les citer tous.
Le scandale, Jacques Rancière, ingrédient de ce rapport à la fiction.
Oui, enfin, ça peut ne pas être scandale. Mais cela dit, bon, il y a plusieurs sortes de scandales. Il y a le scandale, effectivement, qui est lié à la, disons, à ce dont parlent les auteurs, l'homosexualité chez Proust. Et puis, il y a le scandale qui est lié simplement au fait que, justement, bon, on crée quelque chose comme une topographie du monde qui ressemble pas à celle qui est acceptée, qui ressemble pas, finalement, à la vie dans laquelle on est censé vivre. Voilà. Et bon, c'est ça un peu ça, effectivement, le scandale en général de la fiction déclarée, de la fiction avouée. Effectivement de mettre à distance le monde qui est supposé être le monde réel, c'est-à-dire celui qui est un petit peu organisé malgré tout par les puissances dominantes.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous disiez que l'information est une fiction, oui. Je pense que c'est une fiction admise. Oui. Mais la fiction elle-même, qui s'applique au réel, est de moins en moins supportée. Parce que l'information est surtout fiction parce que c'est un montage. On vous parle de quelques sujets. C'est comme le ciel et les étoiles, ce qui se passe actuellement. Et on va nous parler, par exemple, d'une affaire judiciaire, comme s'il se passait que ça. On nous parlera pas de certaines guerres parce qu'elles nous intéressent. Pas, etc., etc. Donc, en cela, c'est une fiction. Là où je pense que la fiction elle-même est de moins en moins admise, c'est que justement, on pense que ce n'est pas une fiction. On pense que le droit n'est pas une fiction, par exemple. On pense que tout cela, c'est pas venu du cerveau de l'homme, que c'est la réalité elle-même qui s'exprime par elle-même, comme pour l'information, par exemple. Donc, quand on arrive et qu'on se donne pour fiction et qu'on n'est pas dans le pur divertissement des gens, et là, ça devient scandaleux parce que on a l'impression qu'on vit pas du tout dans un monde de fiction, alors que si.
Le droit, c'est vrai, on aurait pu aussi parler du droit. Il me semble d'ailleurs que c'est un univers qui a peut-être moins de problèmes avec la fiction, qui a recours très fréquemment à la fiction, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le droit fabrique beaucoup de fiction et il est fait en grande partie pour ça. Ce sera pour une autre émission. Jacques Rancière, Les bords de la fiction, c'est un livre qui paraît aux éditions du Seuil, et Régis Geoffrey, Microfiction 2018, c'est un livre qui paraît chez Gallimard. Vous retrouvez les références bibliographiques bibliographique sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter autant de fois qu'il vous plaira cette émission. Vous pouvez également, je vous y encourage, vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Bernard Laniel, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.